Simon-Pierre, sa vie et ses épîtres, par W.T.P. Wollstone, édition 1950. Chapitre 13. Le boiteux. Actes chapitre 3 et chapitre 4, versets 1 à 22. Et Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière qui est la neuvième. Et on portait un homme qui était boiteux dès le ventre de sa mère, lequel on mettait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, leur demanda l'aumône. Et Pierre, ayant, avec Jean, arrêté ses yeux sur lui, dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Mais Pierre dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Et l'ayant pris par la main droite, il le leva. Et à l'instant, les plantes et les chevilles de ses pieds devinrent fermes, et faisant un saut, il se tint debout et marcha, et il entra avec eux au temple, marchant et sautant et louant Dieu. Et tout le peuple le vit marchant et louant Dieu. Et ils le reconnurent comme celui qui était assis pour demander l'aumône à la belle porte du temple. Et ils furent remplis d'étonnement et d'admiration de ce qui lui était arrivé. Et comme ils tenaient par la main Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux au portique appelé de Salomon. Et Pierre, voyant cela, répondit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ceci, ou pourquoi avez-vous les yeux fixés sur nous, comme si nous avions fait marcher cet homme par notre propre puissance ou par notre piété? Le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous, vous avez livré, et que vous avez renié devant Pilate, lorsqu'il avait décidé de le relâcher. Mais vous, vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât un meurtrier. Et vous avez mis à mort le prince de la vie, lequel Dieu a ressuscité d'entre les morts, ce dont nous, nous sommes témoins. Et, par la foi en son nom, son nom a raffermi cet homme que vous voyez et que vous connaissez, et la foi qui est par lui a donné à celui-ci cette entière disposition de tous ses membres, en la présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous l'avez fait par ignorance, de même que vos chefs aussi. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait prédit par la bouche de tous les prophètes, savoir que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc, et vous convertissez, pour que vos péchés soient effacés, en sorte que viennent des temps de rafraîchissement de devant la face du Seigneur, et qu'il envoie Jésus-Christ, qui vous a été préordonné, lequel il faut que le ciel reçoive, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes de tout temps. Moïse déjà a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il pourra vous dire. Et il arrivera que toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminée d'entre le peuple. Et même tous les prophètes, depuis Samuel et ceux qui l'ont suivi, tous ceux qui ont parlé ont aussi annoncé ces jours. Vous, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a établie avec nos pères, disant à Abraham, « Et en ta semence seront bénies toutes les familles de la terre. » À vous, premièrement, Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de vos méchancetés. » Chapitre 4. Mais comme il parlait au peuple, les sacrificateurs et le commandant du temple et les sadducéens survinrent étant en peine de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient par Jésus la résurrection d'entre les morts. Et ils mirent les mains sur eux, et les firent garder jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Mais plusieurs de ceux qui avaient ouï la parole crurent, et le nombre des hommes se monta à environ 5000. Or, il arriva que, le lendemain, leurs chefs et leurs anciens et leurs scribes s'assemblèrent à Jérusalem, et Anne, le souverain sacrificateur, et Caïphe, et Jean, et Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race souveraine sacerdotale. Et les ayant fait comparaître, il leur demandait, « Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait ceci ?» Alors Pierre, étant rempli de l'Esprit-Saint, leur dit, « Chef du peuple et anciens d'Israël, si aujourd'hui nous sommes interrogés au sujet de la bonne œuvre qui a été faite à un homme impotent, et qu'on veuille apprendre comment il a été guéri, sachez, vous tous et tout le peuple d'Israël, que ça a été par le nom de Jésus-Christ le Nazaréen que vous, vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est, dis-je, par ce nom que cet homme est ici devant vous plein de santé. Celui-ci est la pierre méprisée par vous qui bâtissez, qui est devenue la pierre angulaire, et il n'y a de salut en aucun autre, car aussi il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes par lequel il nous faille être sauvés. Et, voyant la hardiesse de Pierre et de Jean, et s'étant aperçu qu'ils étaient des hommes illettrés et du commun, il s'en étonnait. Et il les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Et, voyant là présent avec eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à opposer. Et leur ayant ordonné de sortir du Sanhédrin, ils conférèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes ? Car il est apparent pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle notoire a été fait par eux, et nous ne pouvons le nier. Mais afin que cela ne soit pas répandu davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler davantage en ce nom à qui que ce soit. » Et les ayant appelés, ils leur enjoignirent de ne plus parler ni enseigner en aucune manière au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean, répondant, leur dirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous écouter plutôt que Dieu, car, pour nous, nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. » Et après les avoir menacés, ils les relâchèrent, ne trouvant pas comment ils pourraient les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui avait été fait, car l'homme en qui avait été faite cette miraculeuse guérison avait plus de 40 ans. Au chapitre 3, Dieu rassemble le peuple pour la seconde fois afin de rendre témoignage à son Fils. Au chapitre 2, il l'avait fait pour le don du Saint-Esprit et le don miraculeux des langues. Pierre et Jean, amis intimes, particulièrement unis tout au long des récits évangéliques, montent ensemble au temple à la 9e heure pour aller prier. Autrefois, ils étaient compagnons de travail, ils avaient pêché ensemble dans la mer de Galilée, maintenant ils sont associés pour une œuvre nouvelle, pour prendre des hommes. Les deux apôtres se complétaient. Ce qui manquait à l'un, l'autre le possédait. Jean était aussi calme que son compagnon était impulsif. Homme tranquille, paisible, méditatif, aux affections profondes, il faisait bien le pendant de Marie de Béthanie, tandis que Pierre était celui de Marthe. Il est vrai que Jésus avait surnommé Jean et son frère Jacques Boanerges, ce qui est fils de tonnerre, Marc 3, verset 17. Et il surnomma Simon, Pierre, et Jacques le fils de Zébédée et Jean le frère de Jacques, et il les surnomma Boanerges, ce qui est fils de tonnerre. Nous connaissons Pierre avec son caractère emporté qui l'entraînait sans arrêt et balayait tout devant lui. Jean représentait néanmoins la plus grande force morale, car la vraie force est toujours paisible. Les deux amis étaient très dévoués l'un à l'autre, aussi bien qu'à leur maître, et jamais nous n'entendons parler de querelles entre eux. Leur amitié était fondée sur une base sainte et permanente. Il serait bon que nous en fassions de même pour toutes nos amitiés. Pour accomplir un travail fécond pour le Seigneur, il importe d'avoir un compagnon bien choisi, sincère, comme Jean pour Pierre, Timothée ou Épaphrodite pour Paul. Voir Philippiens 2, verset 22. Mais vous savez qu'il a été connu à l'épreuve, savoir qu'il a servi avec moi dans l'Évangile, comme un enfant sert son père. Philippiens 4, verset 3. Oui, je te prie, toi aussi, vrai compagnon de travail, aide celles qui ont combattu avec moi dans l'Évangile, avec Clément aussi et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie.
Pierre et Jean s'en allaient donc ensemble pour prier. Remarquons combien souvent les premiers croyants sont en prière dans les Actes. Au chapitre 1, les disciples
persévérer d'un commun accord dans la prière.
Puis il prie pour le choix d'un nouveau compagnon de travail. Au chapitre 2, il
persévérer dans les prières.
Ici, Pierre et Jean se rendent ensemble au temple à l'heure de la prière. Au chapitre 4, il prie
rempli du Saint-Esprit.
Verset 31.
Et comme ils faisaient leurs supplications, le lieu où ils étaient assemblés fut ébranlé. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse.
Voir encore chapitre 6, verset 4.
Et pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole.
Acte chapitre 6, verset 6.
Après avoir prié, ils leur imposèrent les mains.
Chapitre 7, verset 60.
Et s'étant mis à genoux, il cria à haute voix, « Seigneur, ne leur impute point ce péché. » Et quand il eut dit cela, il s'endormit.
Acte 8, verset 15.
Pierre et Jean, qui étant descendus, prièrent pour eux pour qu'ils reçussent l'Esprit Saint.
Acte 8, verset 22.
Repens-toi donc de cette méchanceté et supplie le Seigneur afin que, si faire se peut, la pensée de ton cœur te soit pardonnée.
Acte 9, verset 11.
Et le Seigneur lui dit, lève-toi et va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car voici il prie.
Acte 9, verset 40.
Mais Pierre, les ayant tous mis dehors et s'étant mis à genoux, pria.
Acte 10, verset 2.
Centurion de la cohorte appelée Italique, pieux et craignant Dieu avec toute sa maison.
Acte 10, verset 9.
Or, le lendemain, comme ils marchaient et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit pour prier vers la sixième heure.
Acte 10, verset 30 et 31.
Et Corneille dit, il y a 4 jours que j'étais en jeûne jusqu'à cette heure-ci. Et à la 9e heure, je priais dans ma maison, et voici, un homme se tint devant moi dans un vêtement éclatant et dit, « Corneille, ta prière est exaucée et tes aumônes ont été rappelées en mémoire devant Dieu. »
Acte 11, verset 5.
J'étais en prière dans la ville de Joppé.
Acte 12, verset 5.
Pierre donc était gardé dans la prison, mais l'assemblée faisait d'instantes prières à Dieu pour lui.
Acte 13, verset 3.
Alors, ayant jeûné et prié, et leur ayant imposé les mains, ils les laissèrent aller.
Acte 14, verset 23.
Et leur ayant choisi des anciens dans chaque assemblée, ils prièrent avec jeûne et les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru.
Acte chapitre 16, verset 13.
Et le jour du sabbat, nous sortîmes hors de la porte, et nous nous rendîmes au bord du fleuve, où l'on avait coutume de faire la prière.
Acte chapitre 16, verset 25.
Or, sur le minuit, Paul et Silas, en priant, chantaient les louanges de Dieu.
Acte 20, verset 36. Et ayant dit ces choses, il se mit à genoux et pria avec eux tous. Acte 22, verset 17. Or quand je fus de retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, il m'arriva d'être en extase. Dans la prière réside le secret de leur puissance. Ils dépendaient de Dieu, ils regardaient à lui pour leur travail et l'accomplissaient avec une grande bénédiction. On portait un homme qui était boiteux dès le ventre de sa mère, lequel on mettait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, leur demanda l'aumône. Versets 2 et 3. Au chapitre suivant, nous apprenons qu'il avait 40 ans. 40, dans l'Écriture, nous l'avons vu, est le nombre de l'épreuve parfaite. Ce n'était plus un enfant, et il était bien connu. Dieu prend soin que personne ne puisse contester la guérison et le miracle qui allait être opéré. Le voici donc en contact avec la puissance du nom de Jésus. Il est le type du pécheur qui ne possède rien tant qu'il n'a pas trouvé Christ.
Pierre, ayant, avec Jean, arrêté ses yeux sur lui, dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux.
Versets 4 et 5. Sans prévoir ce que cela serait, il escomptait évidemment de l'argent. Mais le Seigneur lui donne une autre réponse. Pierre dit «
Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. »
Verset 6. Le mendiant n'a pas le temps d'être déprimé quand l'apôtre avoue n'avoir aucun argent.
Et l'ayant pris par la main droite, il le leva. Et à l'instant, les plantes et les chevilles de ses pieds devinrent fermes.
Verset 7. Guéri par la puissance du nom de Jésus, il en est aussitôt pénétré.
Et faisant un saut, il se tint debout et marcha, et il entra avec eux au temple, marchant et sautant et louant Dieu.
Verset 8. Il est rempli de joie comme un pécheur qui a accepté le pardon de ses péchés.
Et tout le peuple le vit marchant et louant Dieu. Et ils le reconnurent comme celui qui était assis pour demander l'aumône à la belle porte du temple, et ils furent remplis d'étonnement et d'admiration de ce qui lui était arrivé.
Versets 9 et 10. Rien de plus puissant en faveur du témoignage de la grâce de Dieu que la vie joyeuse et fervente d'un chrétien dévoué. Le boiteux tient par la main Pierre et Jean. Il savait où trouver la force. Le lendemain, quand les deux apôtres sont faits prisonniers, cet homme se rendit courageusement devant le Sanhédrin, et, bien que silencieux, restait là comme témoin de la puissance du nom de Jésus. Dans les versets qui suivent, Pierre prononce un nouveau discours et impute encore une fois à la nation la grande faute dont elle s'est rendue coupable. Il montre, en même temps, comme la grâce de Dieu efface l'immense péché qu'elle a commis.
« Pourquoi vous étonnez-vous ? »
Verset 12, dit Pierre. Une seule pensée l'occupait, ce dont Christ était digne, car il n'y a pas de limite à sa puissance. Si le peuple s'étonnait, c'était à cause de son manque de foi. Il considérait l'instrument, il ne savait pas que Dieu emploie souvent les choses simples de ce monde pour accomplir un acte divin. Les murs de Jéricho tombèrent au son des trompettes. Par le moyen des 300 hommes qui lapèrent l'eau du torrent, Dieu sauva le pays des mains de Madian au temps de Gédéon. Ce qui nous manque, c'est ce que possédait Pierre, plein de l'Esprit Saint et rempli de Christ.
Le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous, vous avez livré.
Verset 13. Pierre ne parle pas de Jésus comme fils de Dieu, ce sera le sujet du ministère de Paul, mais de Jésus, serviteur de Dieu. Au moment de sa conversion, Paul prêcha Jésus, le fils de Dieu. Acte 9, verset 20.
Et aussitôt il prêcha Jésus dans les synagogues, disant que lui est le Fils de Dieu.
Le sujet traité ici est clair. Jésus, auparavant sur la terre, est maintenant dans la gloire.
Jésus, que vous, vous avez livré et que vous avez renié devant Pilate, lorsqu'il avait décidé de le relâcher.
Verset 13. L'apôtre remet leur faute sur leur conscience, sans mentionner Judas, qui ne fut qu'un instrument.
Vous avez renié le Saint et le Juste.
Verset 14. Vous avez renié le Messie, celui que Dieu déclare être saint et juste. Ils auraient pu accuser Pierre de cette même faute, mais l'apôtre s'est amèrement repenti, et le Seigneur a pu la lui pardonner. Il a eu un entretien particulier avec son Sauveur, mort pour son péché. Maintenant, tout est effacé. Puisque tout est purifié, oublié quant à lui, il s'adresse sans crainte à ses auditeurs pour les accuser du péché dont lui-même s'était aussi rendu coupable. En reniant le Saint, ils ont contribué à sceller le jugement de Pilate et à crucifier leur propre Messie. Terrible accusation, mais aussi précieux témoignage de ce qu'était le Saint de Dieu.
Vous avez mis à mort le prince de la vie.
Verset 15. Il savait que Pierre avait raison.
Dieu l'a ressuscité d'entre les morts.
Verset 15. Quel contraste entre les pensées de Dieu et celles du monde. Vous l'avez tué, mais Dieu l'a ressuscité. Vous avez pris un chemin opposé à celui de Dieu. Vous l'avez mis dans un tombeau. Dieu l'en a fait sortir.
Ce dont nous, nous sommes témoins.
Verset 15. Dieu l'a élevé dans la gloire.
Par la foi en son nom, son nom a raffermi cet homme que vous voyez et que vous connaissez, et la foi qui est par lui a donné à celui-ci cette entière disposition de tous ses membres en la présence de vous tous.
Verset 16. La foi seule peut faire quelque chose en nous, la foi en son nom qui assure la bénédiction. Cet homme a marché au nom de Jésus de Nazareth, ce nom seul peut effacer notre péché et nous attirer à lui.
Puis Pierre introduit la grâce. Frères, je sais que vous l'avez fait par ignorance, de même que vos chefs aussi.
Verset 17. Sur la croix, Jésus avait prié.
Père, pardonne-leur.
L'apôtre suit les traces du Seigneur et parle de pardon. Mais pour cela, ajoute-t-il,
repentez-vous donc et vous convertissez, pour que vos péchés soient effacés.
Verset 19. Nos péchés ne peuvent l'être que dans le sang de Jésus. Seule la repentance, la foi au Seigneur Jésus, apporte cette bénédiction. Qu'est-ce que la repentance? C'est le jugement de soi-même. Qu'est-ce que la conversion? C'est l'acte par lequel on se tourne vers Dieu. Nous en avons une illustration dans la parabole du Fils prodigue. Il était convaincu lorsqu'il disait
« Combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance, et moi je péris ici de faim. »
Luc 15, verset 17. Il savait que le cœur de son père était tout de bonté, tandis que dans le ciel il n'y avait que méchanceté. Cette assurance le fit se tourner vers son père.
« La bonté de Dieu te pousse à la repentance. »
Romains 2, verset 4. C'est sa bonté qui pousse l'homme à la repentance, et non pas la repentance de l'homme qui produit la bonté de Dieu. Le Fils se convertit quand il arrive vers son Père et confesse ses péchés.
« Père, dit-il, j'ai péché contre le ciel et devant toi. »
Luc 15, verset 21. Sa repentance lui fait ajouter
« Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. »
La repentance est le jugement de l'âme sur soi-même dans la présence de Dieu, mais elle ne conduit pas à la conversion. Elle prend le parti de Dieu contre moi-même et juge que ce que Dieu dit de moi est vrai. Elle croit son témoignage. La foi reçoit le témoignage divin, la repentance en est le résultat.
Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait prédit par la bouche de tous les prophètes, savoir que son Christ devait souffrir.
Verset 18. Ceci ne doit pas servir d'excuse au péché de la nation. Dieu a envoyé Jésus comme sauveur, dit Pierre, et vous avez prouvé votre culpabilité et le mauvais état de vos cœurs en le mettant à mort. Mais Dieu savait ce qui était nécessaire et ce qu'il avait préordonné. Christ devait souffrir, car, disent les Écritures, il convenait pour lui de souffrir.
Repentez-vous donc et vous convertissez pour que vos péchés soient effacés, en sorte que viennent des temps de rafraîchissement de devant la présence du Seigneur, et qu'il envoie Jésus-Christ, qui vous a été préordonné, lequel il faut que le ciel reçoive.
Versets 19 à 21. Merveilleuse nouvelle pour tout pécheur repentant. Le chapitre suivant mentionnera 5000 personnes qui se convertiront et obtiendront le pardon de leurs péchés. Nous ne devons pas oublier que les Juifs attendaient le royaume, le règne millénaire du Messie. Le millénium viendra certainement, dit Pierre, mais il viendra en relation avec ce Jésus que vous avez crucifié,
lequel il faut que le ciel reçoive, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes de tout temps.
Verset 21. Si vous attendez le royaume, vous aurez le roi de Dieu, le Seigneur Jésus. Jésus était celui dont tous les prophètes ont rendu témoignage. Moïse déjà avait dit
« Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il pourra vous dire. »
Verset 22. Sur la montagne de la Transfiguration, Dieu leur avait dit
« Écoutez-le. »
Mais ils ne l'écoutèrent pas. Combien en sont graves les conséquences, puisque
« Il arrivera que toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminée d'entre le peuple. »
Verset 23. Le prophète dont il est question ici est certainement Jésus, car Pierre continue.
« Et même tous les prophètes, depuis Samuel et ceux qui l'ont suivi, tous ceux qui ont parlé ont aussi annoncé ses jours. »
Verset 24. Tout dépend de la manière dont vous l'écoutez. Écouter Jésus signifie assurer son salut. Rester sourd, endurcir son cœur, veut dire apposer le sceau d'une damnation éternelle. Enfin, l'apôtre cite la merveilleuse promesse faite à Abraham.
En ta semence seront bénies toutes les familles de la terre.
Verset 25. Et il conclut avec beaucoup de bonté.
À vous, premièrement, Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de vos méchancetés.
Verset 26. Une grande foule accepta la foi au Fils de Dieu, mais ce ne fut pas le cas de leur chef. Les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens s'unissent pour persécuter les apôtres. Deux groupes différents sont en présence. Les sacrificateurs et les sadducéens. Ces derniers ne croyaient pas en la résurrection, aux anges, à l'esprit, à un état futur, ils ne croyaient à rien. Voir Actes 23, verset 8.
Car les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, ni d'ange, ni d'esprit, mais les pharisiens confessent l'un et l'autre.
Les apôtres annonçaient un sauveur ressuscité qui avait passé par la mort. Rien d'étonnant à ce qu'ils fussent en peine
de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient par Jésus la résurrection d'entre les morts.
Chapitre 4, verset 2.
Mais plusieurs de ceux qui avaient ouï la parole crurent, et le nombre des hommes se monta à environ 5000.
Verset 4. Il n'est pas parlé de femmes et d'enfants. Pourtant, si nous jugeons d'après ce que nous voyons de nos jours, les femmes sont généralement plus nombreuses pour écouter la parole de Dieu. Les hommes aiment croire et dire que l'Évangile est pour les femmes et les enfants. Mais dans l'éternité,
ceux qui auront méprisé l'Évangile seront damnés éternellement. Au chapitre 3, l'Évangile était annoncé aux communs du peuple. Au chapitre 4, il sera présenté aux chefs. Or, il arriva que, le lendemain, leurs chefs et leurs anciens et leurs scribes s'assemblèrent à Jérusalem, et Anne, le souverain sacrificateur, et Caïphe, et Jean, et Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race souveraine sacerdotale. Et les ayant fait comparaître, ils leur demandaient, « Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait ceci ?» Alors Pierre, étant rempli de l'Esprit-Saint, leur dit, « Chef du peuple et anciens d'Israël, si aujourd'hui nous sommes interrogés au sujet de la bonne œuvre qui a été faite à un homme impotent, et qu'on veuille apprendre comment il a été guéri, sachez, vous tous, et tout le peuple d'Israël, que ça a été par le nom de Jésus-Christ le Nazaréen, que vous, vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est, dis-je, par ce nom, que cet homme est ici devant vous plein de santé. » Versets 5 à 10.
Pierre puisait sa puissance dans le fait qu'il était rempli de l'Esprit-Saint. Quelle folie de mettre quelqu'un en prison parce qu'il a guéri un impotent. Dieu permet que le mendiant vienne rendre témoignage par sa présence devant le Sanhédrin, où, certainement, il n'avait pas été convié, c'était un témoin encombrant. Hier, il était impotent. Aujourd'hui, c'est un homme en pleine santé, grâce à la puissance du nom de Jésus qu'ils avaient crucifié. Là était leur crime, tandis que « Dieu l'a ressuscité d'entre les morts », c'était la justice de Dieu.
Celui-ci est la pierre méprisée par vous qui bâtissez, qui est devenue la pierre angulaire.
Verset 11. Qu'était cette pierre ? Christ, bien sûr. Christ en gloire, comme tête de l'angle. Pierre se met en conflit avec ceux qui veulent construire sans Christ. Le Seigneur avait dit, en parlant de lui-même comme étant la pierre,
« Celui qui tombera sur cette pierre sera brisé, mais celui sur qui elle tombera, elle le broiera. »
Matthieu 21, verset 44. La pierre du coin, prête à tomber, et Christ venant en gloire, pour détruire les nations sans Dieu au jour de sa colère. Ceux qui tombent sur la pierre et qui sont détruits, ce sont les Juifs tombant sur Jésus dans son humiliation.
Il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes par lequel il nous faille être sauvés.
Verset 12. Pierre dut faire chanceler l'auguste Sanhédrin devant lequel il se tenait, lui et son compagnon. Impressionné par la hardiesse de Pierre et de Jean, ils tiennent une conférence secrète.
Voyant là présent avec eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à opposer.
Verset 14. La foi et les faits sont des témoins inflexibles qui ne peuvent que témoigner la grâce de Dieu.
Il est apparent pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle notoire a été fait par eux. Et nous ne pouvons le nier.
Verset 16. Ils admettent leur défaite, font appeler les apôtres et leur défendent,
avec menace de parler davantage en ce nom à qui que ce soit.
Verset 17. Que faire? À qui obéir? À Dieu ou aux hommes? Les apôtres ne tolèrent aucune équivoque.
Pierre et Jean, répondant, leur dirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous écouter plutôt que Dieu. »
Verset 19. La défense des hommes n'a aucune prise sur eux. Dieu leur avait commandé de prêcher Christ et l'Évangile.
Car, pour nous, nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues.
Verset 20. Les chefs religieux d'Israël n'étaient pas alors les interprètes de la volonté de Dieu, ils s'y opposaient même, tandis que le chemin des apôtres était clair, ils devaient obéir à Dieu. Il n'était nullement en contradiction avec l'Écriture qui enjoint
« Que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle, car il n'existe pas d'autorité si ce n'est de par Dieu, et celles qui existent sont ordonnées de Dieu. de sorte que celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordonnance de Dieu.
Romains 13, versets 1 et 2. Pierre lui-même dira plus tard,
« Soyez donc soumis à tout ordre humain pour l'amour du Seigneur, soit au roi comme étant au-dessus de tous, soit au gouverneur comme à ceux qui sont envoyés de sa part pour punir ceux qui font le mal et pour louer ceux qui font le bien. »
1 Pierre 2, versets 13 et 14. Dans notre chapitre, il ne s'agit pas de pouvoir civil, reconnu par le chrétien comme l'épée de Dieu mise dans la main de l'homme, mais d'ecclésiastiques qui n'ont aucun droit sur la conscience. L'enfant de Dieu ne peut pas désobéir à Dieu pour obéir à l'homme. Le pouvoir civil peut ordonner des lois qui priveront le chrétien de privilèges dont il désirerait jouir. Cependant, le croyant ne doit jamais désobéir à Dieu, pas même pour se conformer aux lois. Il doit endurer la privation de ses privilèges, ce que Pierre fait clairement ressortir ici.
Et ayant été relâchés, ils vinrent vers les leurs.
Verset 23. Il existait donc un groupe séparé, dont les membres se connaissaient les uns les autres. C'est vers eux que se rendent les apôtres. Libérés des soucis terrestres, savons-nous goûter la joie de cette compagnie jour après jour? C'est ce que faisaient les compagnons de Pierre. Ils prièrent ensemble et virent le beau résultat. Chapitre 14. L'Esprit du Seigneur tenté. Acte 4, versets 23 à 37.
Et ayant été relâchés, ils vinrent vers les leurs et leur rapportèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et l'ayant entendu, ils élevèrent d'un commun accord leur voix à Dieu et dirent, « Ô souverain, toi tu es le Dieu qui a fait le ciel et la terre et la mer et toutes les choses qui y sont, qui a dit, par la bouche de David ton serviteur, pourquoi se sont déchaînées les nations et les peuples ont-ils projeté des choses vaines? Les rois de la terre se sont trouvés là, et les chefs se sont réunis ensemble contre le Seigneur et contre son Christ. Car en effet, dans cette ville, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, se sont assemblés et Hérode et Ponce Pilate avec les nations et les peuples d'Israël, pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient à l'avance déterminé de voir être faites. Et maintenant, Seigneur, regarde à leurs menaces et donne à tes esclaves d'annoncer ta parole avec toute hardiesse, en étendant ta main pour guérir, et pour qu'ils se fassent des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et comme ils faisaient leurs supplications, le lieu où ils étaient assemblés fut ébranlé. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Et la multitude de ceux qui avaient cru était un cœur et une âme, et nul ne disait d'aucune des choses qu'il possédait qu'elle fût à lui, mais toutes choses étaient communes entre eux, et les apôtres rendaient avec une grande puissance le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucune personne nécessiteuse, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix des choses vendues et le mettaient aux pieds des apôtres, et il était distribué à chacun selon que l'un ou l'autre pouvait en avoir besoin. Et Joseph, qui par les apôtres fut surnommé Barnabas, ce qui est à interpréter et fils de consolation, lévite et cypriote de naissance, ayant une terre, la vendit, et en apporta la valeur, et la mit aux pieds des apôtres.
Acte 5, versets 1 à 16.
Mais un homme, nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une possession, et, de connivence avec sa femme, mit de côté une partie du prix, et, en apportant une partie, la mit aux pieds des apôtres. Mais Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, que tu aies menti à l'Esprit Saint, et que tu aies mis de côté une partie du prix de la terre? Si elle fût restée non vendue, ne te demeurait-elle pas? et vendue n'était-elle pas en ton pouvoir? Comment t'es-tu proposé cette action dans ton cœur? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. Et Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Et une grande crainte s'empara de tous ceux qui entendirent ces choses. Et les jeunes hommes se levant le couvrirent, et l'ayant emporté dehors l'ensevelirent. Et il arriva, environ 3 heures après, que sa femme, ne sachant pas ce qui était arrivé, entra. Et Pierre lui répondit, « Dis-moi, avez-vous donné le champ pourtant ? » Et elle dit, « Oui, pourtant. » Et Pierre lui dit, « Comment êtes-vous convenus entre vous de tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici, les pieds de ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront aussi. » Et à l'instant, elle tomba à ses pieds et expira. Et les jeunes hommes, entrant, la trouvèrent morte, et ils l'emportèrent dehors et l'ensevelirent auprès de son mari. Et une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui entendaient parler de ces choses. Et beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient parmi le peuple par les mains des apôtres, et ils étaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Mais, d'entre les autres, nul n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Et des croyants d'autant plus nombreux se joignaient au Seigneur, une multitude tant d'hommes que de femmes, de sorte qu'on apportait les infirmes dehors dans les rues, et qu'on les mettait sur de petits lits et sur des couchettes, afin que, quand Pierre viendrait, au moins son ombre passât sur quelqu'un d'eux. Et la multitude aussi des villes d'alentour s'assemblait à Jérusalem, apportant les infirmes et ceux qui étaient tourmentés par des esprits immondes, et ils étaient tous guéris.
La fin du chapitre 4 et le début du chapitre 5 sont en étroite relation. Les apôtres et les leurs sont réunis pour la prière.
Comme ils faisaient leurs supplications, le lieu où ils étaient assemblés fut ébranlé, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse.
Chapitre 4, verset 31. Au début du christianisme, chacun possédait l'Esprit qui était sur la terre comme personne divine. L'Église était formée, 5 000 hommes venaient d'être convertis. Ce n'est pourtant qu'au chapitre 5 que nous entendons parler de femmes introduites dans l'Assemblée. Depuis ce moment, la parole parlera d'une multitude, tant d'hommes que de femmes, faisant partie de l'Église. Ce devait être une époque particulièrement riche et bénie. L'Église demeurait entièrement dépendante de Christ. L'Assemblée était formée et se maintenait, non sur un fondement rendu instable par la loi, mais sur l'œuvre en grâce de Christ. Chacun ne pensait pas à soi-même, mais à son prochain, manifestation spontanée de l'amour divin dans les croyants. Il découvrait en même temps la place de bénédiction et le privilège qu'il possédait en Christ.
Les apôtres rendaient avec une grande puissance le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous.
Verset 33. La grande puissance et la grande grâce vont toujours de pair.
Il n'y avait parmi eux aucune personne nécessiteuse, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix des choses vendues et le mettaient aux pieds des apôtres, et il était distribué à chacun selon que l'un ou l'autre pouvait en avoir besoin.
Versets 34 et 35. Chaque croyant, au moment de sa conversion, perdait ce qu'il possédait, mais considéré comme une joie de souffrir pour le nom de Jésus. Personne ne manquait de rien, car l'amour des autres y suppléait. Ceux qui possédaient quelque chose le déposaient aux pieds des apôtres. Tout cela se faisait volontairement, sans que personne y fût obligé. Barnabas, versets 36 et 37, nous en donne un magnifique exemple. D'un bel élan, il abandonna ses biens. Si Christ n'est pas tout en tous, il ne peut y avoir de sincérité. Quelle beauté se dégage de cette scène, hélas! Le serpent Satan y fait son entrée et introduit le mal. L'Église est l'habitation de Dieu par l'Esprit. L'Esprit de Dieu habite en elle. Satan ne peut pas supporter de voir une communion et un attachement indéfectibles à Christ. Le chapitre 5 signale une imitation d'attachement à Christ comme celui de Barnabas. Nous avons des cœurs tels que même le désir de paraître dévoué peut être imité. Ananias et Saphira voulaient acquérir la même réputation que Barnabas aux yeux des hommes. Ils oubliaient qu'ils avaient affaire avec le Seigneur. On ne se moque pas de Dieu. Dirigé par Dieu, Pierre survient et met en lumière l'état des réels des choses.
Un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une possession et, de connivence avec sa femme, mit de côté une partie du prix et en apportant une partie la mit aux pieds des apôtres. Mais Pierre dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, que tu aies menti à l'Esprit-Saint et que tu aies mis de côté une partie du prix de la terre ?»
Chapitre 5, versets 1 à 3. Avait-il dit un mensonge ? Aucune parole n'a encore été prononcée. Ananias a simplement posé son argent pour les besoins communs. Dieu était là, qui ne veut pas être trompé. Pierre continue.
Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. Et Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira.
Versets 4 et 5. Ananias désirait faire croire à un dévouement qui n'était pas sincère. Dieu, au milieu de son assemblée, découvre la fausseté, la met au jour et la juge. Nous ne devons jamais oublier que Dieu est au milieu de son peuple, de son assemblée, et qu'il veut des cœurs vrais.
Je serai sanctifié en ceux qui s'approchent de moi, et devant tout le peuple je serai glorifié.
Lévitique 10, verset 3, disait l'Éternel, lorsqu'il jugeait l'impiété de Nadab et Abihu, qui avaient offert du feu étranger. Ils moururent comme, plus tard, Achan qui prit de l'anathème. Ananias meurt, car Dieu veut la vérité. Chez les deux sacrificateurs, il avait jugé l'impiété. En Achan, la cupidité. Chez Ananias, la fausseté. Il veut que nous pesions ses leçons dans sa présence et que nous sentions combien il est solennel d'entrer dans son assemblée et de prononcer son nom. Plus nous demeurerons près de la vérité, plus sûrement nous serons découverts. Si nous conservons dans notre cœur un couvert de religiosité, ne nous approchons pas de la table du Seigneur. Puis vient le tour de Saphira.
Pierre lui répondit, « Dis-moi, avez-vous donné le champ pourtant ? » Et elle dit, « Oui, pourtant. »
Verset 8. Elle est hardie et audacieuse dans son mensonge.
Et Pierre lui dit, « Comment êtes-vous convenu entre vous de tenter l'Esprit du Seigneur ?»
Verset 9. Dieu savait toutes choses. Les deux époux avaient conclu un arrangement entre eux. Que veut dire Pierre par
« tenter l'Esprit du Seigneur » ?
Comment pouvait-il le faire ? Israël tenta Dieu dans le désert lorsqu'il disait
« L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?»
Exode 17, verset 7. Il n'était pas assuré de la présence de l'Éternel parmi eux, pas plus qu'Ananias et Saphira n'étaient certains de la présence du Seigneur dans l'assemblée. Le livre des Actes nous enseigne la grande vérité qu'une personne divine habite sur la terre, dans l'assemblée de Dieu. Le Seigneur le manifeste en dévoilant à Pierre le cœur du mari et de la femme, et ainsi juge le mal. Dieu ne tolère pas le mal dans l'assemblée. Il le juge parmi ses enfants, parce qu'il se tient au milieu d'eux. Il ne peut pas tolérer le mal là où il n'habite pas, combien moins là où il habite. Plus sa présence sera manifestée et réalisée, moins il tolérera ce qui ne lui convient pas. Dieu est saint, il veut la sainteté parmi les siens. Cette triste scène prouve la subtilité avec laquelle le diable pénètre pour corrompre l'Église. Ananias et Saphira prétendaient suivre l'impulsion de l'Esprit-Saint, dont ils dédaignaient la présence, et en en doutaient même. Ils tombent morts en présence de celui que, dans leur aveuglement, ils avaient oublié et ne pouvaient tromper, même s'ils trompaient ses serviteurs. Aucun témoignage de la présence de Dieu dans l'assemblée n'est plus puissant, bien qu'il soit pénible dans ses effets. La présence de Dieu au milieu des siens est une vérité de toute importance. Nous ignorons tout d'Ananias et de Saphira. Étaient-ils convertis? Ce que nous savons, c'est que, extérieurement, ils étaient membres de l'assemblée de Dieu sur la terre et occupaient donc une position fausse. La main du Seigneur s'abat sur eux en jugement. Il en résulta qu'une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui entendaient parler de ces choses. Verset 11. L'assemblée, comme ceux du dehors, en furent grandement émus. Tous sentaient la présence de Dieu et, en conséquence, nul n'osait se joindre à eux. Verset 13. On ne se hâtait pas pour le faire, et ceux qui désiraient occuper une place en vue s'en abstenaient, car le manque de sincérité est toujours découvert.
D'entre les autres, nul n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement.
Verset 13. D'entre les autres semble signifier ceux qui occupaient une place dans ce monde, religieux ou autre. Ils craignaient d'offenser le monde qui leur a procuré une position en vue. Plus haute est la place que le monde nous donne, moins nous désirons manquer à son approbation. Le peuple, les gens du commun sans doute, n'étaient pas autant touchés par la faveur du monde. Ils n'avaient rien à perdre et tout à gagner en acceptant Christ. Gens simples, ils recevaient la vérité. Parmi eux, on rencontre beaucoup d'âmes sincères.
Une multitude, tant d'hommes que de femmes.
Verset 14. La leçon à retirer, c'est que Dieu garde toujours les yeux sur nous. Il attend longuement, traite même quelquefois avec notre manque de loyauté. Mais si une âme reste simple et honnête, elle aime lui dire comme le psalmiste.
Éternel, tu m'as sondé et tu m'as connu.
Et
« Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, et regarde s'il y a en moi quelque voie de chagrin, et conduis-moi dans la voie éternelle. »
Psaume 139, versets 1, 23 et 24. L'âme simple et dépendante qui s'appuie sur l'Éternel est toujours bien gardée. Chapitre 15. Signes et miracles. Actes chapitre 5, versets 12 à 42, et chapitre 8.
Et beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient parmi le peuple par les mains des apôtres, et ils étaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Mais d'entre les autres, nul n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Et des croyants d'autant plus nombreux se joignaient au Seigneur, une multitude tant d'hommes que de femmes, de sorte qu'on apportait les infirmes dehors dans les rues, et qu'on les mettait sur de petits lits et sur des couchettes, afin que, quand Pierre viendrait, au moins son ombre passât sur quelqu'un d'eux. Et la multitude aussi des villes d'alentour s'assemblait à Jérusalem, apportant les infirmes et ceux qui étaient tourmentés par des esprits immondes, et ils étaient tous guéris. Et le souverain sacrificateur se leva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, savoir la secte des Sadducéens. Et ils furent remplis de jalousie, et mirent les mains sur les apôtres, et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur ouvrit de nuit les portes de la prison, et les conduisit dehors, et dit, « Allez, et, vous tenant dans le temple, annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ceux qui ayant entendu, ils entrèrent vers le point du jour dans le temple, et ils enseignaient. Mais le souverain sacrificateur étant venu, et ceux qui étaient avec lui, ils assemblèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent à la prison pour les faire amener. Mais les huissiers y étant arrivés, ne les trouvèrent pas dans la prison. Et s'en retournant, ils le rapportèrent, disant, « Nous avons trouvé la prison fermée avec toute sûreté, et les gardes se tenant aux portes. Mais, ayant ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Et quand le sacrificateur et le commandant du temple et les principaux sacrificateurs eurent entendu ces paroles, ils furent en perplexité à leur sujet, ne sachant ce que cela deviendrait. Or quelqu'un arriva et leur rapporta, « Voilà, les hommes que vous avez mis en prison sont au temple et enseignent le peuple. » Alors le commandant, avec les huissiers, s'en alla et les amena sans violence, car il craignait d'être lapidé par le peuple. Et les ayant amenés, ils les présentèrent devant le Sanhédrin. Et le souverain sacrificateur les interrogea, disant, « Nous vous avons expressément enjoint de ne pas enseigner en ce nom-là, et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine, et vous voulez faire venir sur nous le sang de cet homme. » Et Pierre et les apôtres répondant dirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez fait mourir le pendant au bois. C'est lui que Dieu a exalté par sa droite, prince et sauveur, afin de donner la repentance à Israël et la rémission des péchés. Et nous, nous lui sommes témoins de ces choses, ainsi que l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Mais eux, ayant entendu ces choses, frémissaient de rage et tenaient conseil pour les faire mourir. Mais un pharisien, nommé Gamaliel, docteur de la loi, honoré de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et donna l'ordre de faire sortir les apôtres pour un peu de temps. Et il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à vous-mêmes par rapport à ces hommes, et voyez ce que vous allez faire. Car avant ces jours-ci, Teudas se leva, se disant être quelque chose, auquel se joignit un nombre d'environ 400 hommes, et il fut tué, et tous ceux qui lui obéissaient furent dissipés et réduits à rien. Après lui s'éleva Judas le Galiléen, au jour du recensement, et il entraîna à la révolte un grand peuple après lui. Lui aussi a péri, et tous ceux qui lui obéissaient furent dispersés. Et maintenant je vous dis, ne vous mêlez plus de ces hommes, et laissez-les, car si ce dessein ou cette œuvre est des hommes, elle sera détruite. Mais si elle est de Dieu, vous ne pourrez les détruire, de peur que vous ne soyez même trouvés faire la guerre à Dieu. Et ils furent de son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils leur enjoignirent, après les avoir battus, de ne pas parler au nom de Jésus, et les relâchèrent. Eux donc se retiraient de devant le Sanhédrin, en se réjouissant d'avoir été estimés dignes de souffrir des opprobres pour le nom. Et ils ne cessaient tous les jours d'enseigner et d'annoncer Jésus comme le Christ dans le temple et de maison en maison.
Chapitre 8.
Or, en ce temps-là, il y eut une grande persécution contre l'assemblée qui était à Jérusalem, et tous furent dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie, excepté les apôtres. et des hommes pieux emportèrent Étienne pour l'ensevelir et menèrent un grand deuil sur lui. Or Saul ravageait l'assemblée, entrant dans les maisons et traînant les hommes et femmes, il les livrait pour être jetés en prison. Ceux donc qui avaient été dispersés allaient çà et là, annonçant la parole, et Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, leur prêcha le Christ. Et les foules, d'un commun accord, étaient attentives aux choses que Philippe disait, l'entendant et voyant les miracles qu'il faisait, car les esprits immondes, criant à haute voix, sortaient de plusieurs qui en étaient possédés. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville-là. Or, avant cela, il y avait dans la ville un homme nommé Simon, qui exerçait la magie et étonnait le peuple de la Samarie, se disant être quelque grand personnage, auquel tous s'attachaient, depuis le petit jusqu'au grand, disant « Celui-ci est la puissance de Dieu appelée la grande ». Et ils s'attachaient à lui parce que depuis longtemps il les étonnait par sa magie. Et quand ils eurent cru Philippe, qui leur annonçait les bonnes nouvelles touchant le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, tant les hommes que les femmes furent baptisés. Et Simon crut aussi lui-même, et après avoir été baptisé, il se tenait toujours auprès de Philippe, et voyant les prodiges et les grands miracles qui se faisaient, il était dans l'étonnement. Or les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, leur envoyèrent Pierre et Jean, qui, étant descendus, prièrent pour eux, pour qu'ils reçussent l'Esprit Saint, car ils n'étaient encore tombés sur aucun d'eux, mais seulement ils avaient été baptisés pour le nom du Seigneur Jésus. Puis ils leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Or Simon, voyant que l'Esprit Saint était donné par l'imposition des mains des apôtres, leur offrit de l'argent, disant « Donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, parce que tu as pensé acquérir avec de l'argent le don de Dieu. Tu n'as ni part ni portion dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de cette méchanceté, et supplie le Seigneur afin que, si faire se peut, la pensée de ton cœur te soit pardonnée, car je vois que tu es dans un fiel d'amertume et dans un lien d'iniquité. » Simon, répondant, dit « Vous suppliez le Seigneur pour moi, en sorte que rien ne vienne sur moi de ce dont vous avez parlé. » Eux donc, après avoir rendu témoignage et avoir annoncé la parole du Seigneur, s'en retournaient à Jérusalem, et ils évangélisaient plusieurs villages des Samaritains. Et un ange du Seigneur parla à Philippe, disant « Lève-toi, et va vers le midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, lequel est désert. » Et lui, se levant, s'en alla. Et voici un Éthiopien, eunuque, homme puissant à la cour de Candace, reine des Éthiopiens, intendant de tous ses trésors, et qui était venu pour adorer à Jérusalem sans retourner. Et il était assis dans son char et lisait le prophète Ésaïe. Et l'Esprit dit à Philippe, « Approche-toi et joins-toi à ce char. » Et Philippe, étant accouru, l'entendit qui lisait le prophète Ésaïe. Et il dit, « Mais comprends-tu ce que tu lis ?» Et il dit, « Comment donc le pourrais-je si quelqu'un ne me conduit ?» Et il pria Philippe de monter et de s'asseoir avec lui. Or, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Ainsi, il n'ouvre point sa bouche. » Dans son humiliation, son jugement a été ôté, et qui racontera sa génération, car sa vie est ôtée de la terre. Et l'eunuque, répondant, dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelque autre ? Et Philippe, ouvrant sa bouche et commençant par cette écriture, lui annonça Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à une eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Et il donna l'ordre qu'on arrêtât le char, et ils descendirent tous deux à l'eau, et Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. Et quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, car il continua son chemin tout joyeux. Et Philippe fut trouvé à Azote. Et en passant au travers du pays, il évangélisa toutes les villes jusqu'à ce qu'il fût arrivé à Césarée.
Quoique Dieu ne se répète jamais, il existe pourtant, au début d'une nouvelle dispensation, une similitude dans ses voies avec les actions qui la précèdent. On peut faire cette observation dans la partie de l'histoire de Pierre qui nous occupe. En rapport avec l'établissement et les progrès de la nouvelle œuvre de Dieu, le christianisme, dont l'essence est la présence et la puissance du Saint-Esprit. Quand le Seigneur Jésus commença son ministère public, ses attributs divins, aussi bien que messianiques, furent mis en valeur. Nous lisons
« Et Jésus allait par toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, et prêchant l'évangile du royaume, et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes de langueurs parmi le peuple. Et sa renommée se répandit par toute la Syrie, et on lui amena tous ceux qui se portaient mal, qui étaient affligés de diverses maladies et de divers tourments, et des démoniaques, et des lunatiques, et des paralytiques, et il les guérit. Et de grandes foules le suivirent de la Galilée, et de Décapolis, et de Jérusalem, et de Judée, et de par-delà le Jourdain. »
Matthieu 4, versets 23 à 25. La plupart de ces miracles de guérison, tous de bonté et non de jugement, comme quelquefois dans les voies de Dieu, par le moyen de ses serviteurs, furent accomplis au premier temps de son ministère. Il voulait que l'on prît garde à sa présence et à sa mission. Une personne divine, le Fils de Dieu était sur la terre sous une forme humaine. Nous faisons la même constatation dans les Actes avec la présence du Saint-Esprit descendu sur la terre pour habiter dans l'assemblée et dans chaque croyant. On pouvait donc s'attendre à des signes et à des miracles, le don de guérison dont parle 1 Corinthiens chapitre 12. Une personne divine, la troisième de la Trinité, était là, bien qu'invisible aux yeux mortels, sous une forme nouvelle. Sa présence se manifestait selon qu'il est écrit.
Et beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient parmi le peuple, par les mains des apôtres, de sorte qu'on apportait les infirmes dehors dans les rues, et qu'on les mettait sur de petits lits et sur des couchettes, afin que, quand Pierre viendrait, au moins son ombre passa sur quelqu'un d'eux. Et la multitude aussi des villes d'alentour s'assemblait à Jérusalem, apportant les infirmes et ceux qui étaient tourmentés par des esprits immondes, et ils étaient tous guéris.
Actes 5, versets 12, 15 et 16. En somme, on revivait le chapitre 4 de Matthieu. L'Esprit de Dieu remplaçait le Fils de Dieu, et usait des apôtres, de Pierre tout spécialement, comme des canaux de sa puissance. Le témoignage de Dieu produisait double effet. Les gens venaient de près et de loin pour en profiter, et Satan commençait à craindre pour son royaume. Ses esclaves étaient remplis de jalousie, verset 17. Pierre, messager du Seigneur, est employé à la guérison des hommes, aussi bien qu'à la bénédiction des âmes. D'amères oppositions s'élèvent, les apôtres sont jetés en prison, mais le Seigneur ne veut pas voir son œuvre interrompue par Satan. Il veille et agit par le moyen des anges pour frustrer les plans de l'homme. Il avait accompli des miracles par le moyen de ses serviteurs, maintenant il fait un miracle pour eux.
l'ange du Seigneur ouvre les portes de la prison pendant la nuit, les fait sortir et leur dit « Allez !» et, vous tenant dans le temple, annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Verset 20. Toutes les paroles de cette vie. Avons-nous bien saisi la signification de ces mots? Nous aussi, nous avons ce message à porter, la parole de vérité, notre témoignage, c'est-à-dire tout ce qui concerne Christ, le sujet de la rédemption, le pardon de nos péchés, la sanctification, la présence du Saint-Esprit. Cette mission comporte une immense puissance. L'Évangile est la puissance de Dieu. Lui seul peut subvenir aux besoins de l'homme. De nos jours, on attache une grande importance à l'éducation, au rang social, mais cela n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. L'homme pécheur, quel qu'il soit, doit, un jour ou l'autre, rencontrer Dieu. Seule la foi au Seigneur Jésus peut lui donner une vie nouvelle. Mort dans nos fautes et dans nos péchés, Éphésiens 2, verset 2, telle est notre condition. Le seul remède réside dans les paroles de cette vie, toute puissante comme l'épée de Goliath. Il n'y en a point d'autre comme celle-là. L'ordre du Seigneur est clair. Prêche la parole, insiste en temps et hors de temps. De Timothée 4, verset 2. Pierre et les apôtres obéissent et se rendent au temple. Pendant ce temps, les chefs tiennent conseil et les envoient chercher par les huissiers. Ceux-ci reviennent en disant « Nous avons trouvé la prison fermée avec toute sûreté et les gardes se tenant aux portes. Mais, ayant ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Verset 23. Leur perplexité est grande. Ils avaient affaire à Dieu et n'y avaient pas pensé. Une autre personne survient et ajoute à leur confusion en annonçant « Les hommes que vous avez mis en prison sont au temple et enseignent le peuple. » Verset 25. Cette fois, on les arrête, mais sans violence, par crainte de la foule. On les interroge à nouveau. « Nous vous avons expressément enjoint de ne pas enseigner en ce nom-là. » Verset 28. « Nous devons tous proclamer ce nom-là. Profitons du jour de grâce. » Vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine, et vous voulez faire venir sur nous le sang de cet homme. Verset 28. Ces chefs avaient déjà condamné le Seigneur. Ils avaient réclamé son sang. Maintenant encore, ils cherchent à mettre à mort ses serviteurs. Remarquons le langage méprisant du souverain sacrificateur. Ce nom-là, sans nommer Jésus. « Votre doctrine, cet homme. » Pierre, au nom des apôtres, témoigne dans sa réponse d'un but bien défini. Il ne cherche pas à faire des remontrances, ni à donner de la lumière, car il se voyait en face d'ennemis de Dieu. « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Verset 29. « Il ne s'oppose pas au pouvoir temporel. Le chrétien ne doit pas le faire. » Mais le judaïsme reposait sur un principe ecclésiastique que Dieu avait jugé et mis de côté, et, de ce fait même, il s'opposait à Christ. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez fait mourir, le pendant au bois. C'est lui que Dieu a exalté par sa droite, prince et sauveur, afin de donner la repentance à Israël et la rémission des péchés. Et nous, nous lui sommes témoins de ces choses, ainsi que l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Versets 30 à 32. Il est un sauveur dans la gloire aujourd'hui pour toute âme qui le cherche. Par lui, Dieu donne la repentance, le pardon des péchés, non seulement à Israël, mais à tout pécheur qui se courbe devant lui. Pierre se repentait quand il disait « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Luc 5, verset 8. Job également. « Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi j'ai horreur de moi.
Job 42, versets 5 et 6.
Le témoignage de Pierre émeut les chefs, mais ils ne se repentent pas. Ils veulent tout de même faire mourir ces hommes gênants pour eux. Gamaliel s'interpose et leur conseille.
Ne vous mêlez plus de ces hommes et laissez-les, car si ce dessein ou cette œuvre est des hommes, elle sera détruite. Mais si elle est de Dieu, vous ne pourrez les détruire, de peur que vous ne soyez même trouvés faire la guerre à Dieu.
Versets 38-39. Ils se rangent à cet avis, mais avant de les relâcher, ils font battre les apôtres et leur commandent de ne plus parler au nom de Jésus.
Eux donc se réjouissent d'avoir été estimés dignes de souffrir des opprobres pour le nom.
Verset 41. Affaiblis mais soutenus par Dieu,
ils ne cessaient tous les jours d'enseigner et d'annoncer Jésus comme le Christ dans le temple et de maison en maison.
Verset 42.
L'opposition du souverain sacrificateur envers les serviteurs de Christ n'est mise que momentanément en échec.
Au chapitre 7, Étienne prêche au nom du Seigneur Jésus. Il est martyrisé et une persécution générale commence. Chapitre 8, versets 1 à 4. Satan croyait le moment propice pour lui. La parole se répand. Philippe, l'un des sept laissés à Jérusalem pour s'occuper des pauvres, chapitre 6, versets 1 à 5, est interrompu dans son travail par la persécution. Acte 6, versets 1 à 5.
Or, en ces jours-là, le nombre des disciples se multipliant, il s'éleva un murmure des hellénistes contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service journalier. Et les douze, ayant appelé la multitude des disciples, dirent « Il ne convient pas que, laissant la parole de Dieu, nous servions aux tables. Jetez donc les yeux, frères, sur cet homme d'entre vous, qui est un bon témoignage, plein de l'Esprit Saint et de sagesse, que nous établirons sur cette affaire. Et pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. Et ce discours plut à toute la multitude, et ils choisirent Étienne, homme plein de foi et de l'Esprit Saint, et Philippe, et Procor, et Nicanor, et Timon, et Parménas, et Nicolas, prosélytes d'Antioche qu'ils présentèrent aux apôtres. Et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains.
Aussi le voyons-nous quitter la ville et se rendre à Samarie, chapitre 8, verset 5, afin d'annoncer l'Évangile.
Et il y eut une grande joie dans cette ville-là,
verset 8. Il avait fait si bon usage du don reçu que plus tard, il sera nommé Philippe l'Évangéliste. Chapitre 21.
Le croyant éprouve toujours une grande joie chaque fois que Christ est prêché. Trop souvent, l'enfant de Dieu est sans joie parce que, trop occupé de lui-même et de ses soucis, il ne regarde pas assez à Christ. Il connaît trop de Christ pour jouir du monde, et trop du monde pour jouir de Christ.
Puis le diable essaie d'imiter l'œuvre de Dieu et envoie le magicien Simon afin de jeter du discrédit sur les croyants. Simon ne porte pas préjudice aux chrétiens, car le diable est toujours battu. Même ainsi, un faux témoin de Christ rend témoignage en faveur de la vérité. Simon le magicien était un faiseur de miracles et cherchait à influencer les foules. Philippe prêchait Christ. Simon se voit surpassé.
Simon crut aussi lui-même, et après avoir été baptisé, il se tenait toujours auprès de Philippe, et voyant les prodiges et les grands miracles qui se faisaient, il était dans l'étonnement.
Verset 13. La foi d'un homme qui assiste à des miracles et qui y croit n'est pas nécessairement la foi. Simon confesse le Seigneur. Philippe le baptise, croyant avoir fait une belle prise, et l'amène à l'assemblée. Le Seigneur veillait aussi bien sur l'assemblée, sur son serviteur que sur le pécheur. Et, par le moyen de Pierre, il fait paraître la condition réelle de l'homme. Simon le magicien devait avoir gagné une quantité de Samaritains à sa cause avant l'arrivée de Philippe. Il
étonnait le peuple de la Samarie, se disant être quelque grand personnage auquel tous s'attachaient depuis le petit jusqu'au grand, disant « Celui-ci est la puissance de Dieu, appelée la grande. »
Verset 9-10. Philippe éloigna un grand nombre de gens de cette influence, ce que voyant, Simon dut estimer que le meilleur parti à prendre était de suivre la masse. Son intelligence consentit à se soumettre à l'autorité du Seigneur, mais sa conscience et son cœur n'étaient pas atteints. Son désir de briller subsistait. Il n'était donc pas capable de recevoir la lumière de Dieu qui dirige les pensées du nouveau converti. Simon n'avait rien de cela. Pierre sera l'instrument qui préserve l'assemblée de l'entrée d'un hypocrite dans son sein. Pierre et Jean étaient descendus de Jérusalem à Samarie, où les croyants reçurent le Saint-Esprit.
Simon, voyant que l'Esprit-Saint était donné par l'imposition des mains des apôtres, leur offrit de l'argent, disant « Donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit-Saint. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, parce que tu as pensé acquérir avec de l'argent le don de Dieu. Tu n'as ni part, ni portion dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. »
Versets 18 à 21. Le cœur de Simon n'était pas droit. L'apôtre a vu clair et il ajoute
« Repens-toi donc de cette méchanceté et supplie le Seigneur, afin que, si faire se peut, la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Car je vois que tu es dans un fiel d'amertume et dans un lien d'iniquité. »
Versets 22 et 23. À l'ouïe de ces paroles solennelles, que peut faire le magicien?
Vous, suppliez le Seigneur pour moi, dit-il, en sorte que rien ne vienne sur moi de ce dont vous avez parlé.
Verset 24. Prie pour moi, semble-t-il dire à Pierre. Rien ne dit que l'apôtre l'ait fait, et nous n'entendons plus parler de lui. Simon le magicien est comme une bouée fixée par Dieu à un roc profond afin de préserver les bateaux de passer par là. Il sert d'avertissement à ceux qui font fausse profession du nom de Christ. Il était baptisé, il disait vouloir suivre le Seigneur, et il cherchait à entrer dans l'assemblée de Dieu. Il n'était pas sauvé, car seule la possession réelle de Christ peut nous assurer le salut. Ananias et Saphira, nous l'avons vu, furent découverts au sein de l'assemblée. Simon le fut au dehors et n'en fit jamais partie. Si Christ est notre vie, notre but, notre gardien, n'oublions pas qu'il est aussi l'époux qui va venir et nous prendra auprès de lui.